j'aimerais vraiment prier avant de débuter le message de ce soir. J'aimerais vraiment remettre ce moment dans les mains de Dieu, le message que je vais apporter, que vraiment il y ait l'onction de Dieu et que les cœurs puissent être touchés et impactés. Est-ce qu'on peut courber nos têtes un instant? Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous sommes réunis ce soir, ici, Seigneur mon Dieu, parce que nous croyons que tu as une parole pour nous. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que cette parole est capable, ta parole est créatrice, elle est féconde. Et je prie ce soir pour une parole créatrice, je prie ce soir pour une parole féconde, je prie ce soir pour une parole qui va aider cette église à aller de l'avant, afin de saisir la vie pour laquelle tu l'as destinée, Seigneur mon Dieu. Je prie pour une grâce particulière pour chacune des personnes dans ce lieu, et que ta grâce, que ta puissance se manifeste, et c'est dans le beau nom de Jésus Père que je t'ai prié, et que tous ceux qui croient que Dieu va parler disent Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais vraiment vous encourager. J'ai un cœur, je suis pasteur d'une église locale, et j'ai un cœur pour les églises locales. J'ai un cœur, je priais pour vous, et j'ai un cœur pour l'église. Je suis passionné par l'église locale. Vraiment, c'est une passion dans mon cœur. Vous savez, et je crois que c'est bien parce que ça passionne également Jésus. Vous savez, Jésus a dit qu'il allait bâtir qu'une seule chose sur cette terre. Vous savez ce que c'est? C'est l'église. Il dit, je bâtirai l'église. Et c'est la passion de Jésus. L'église, c'est la passion de Jésus. Alors bien sûr, il y a l'église universelle, toutes les églises et les chrétiens, c'est nous l'église, hein, les pierres vivantes, c'est pas moi tout seul. Moi tout seul, je ne suis qu'une brique, mais c'est quand nous sommes tous ensemble, nous formons le corps de Christ, comme un membre seul n'est pas le corps. C'est lorsque nous sommes tous réunis que nous formons le corps de Christ. Et j'ai un amour particulier pour le corps de Christ, et j'aimerais, à travers les messages de cette série qui va suivre, j'aimerais vraiment, ensemble, dans nos nouveaux horizons, que vraiment l'église puisse aller de l'avant. Donc vraiment, mon message de ce soir est un message d'église. Je dois vous confesser quelque chose. Vous savez, des moments, il y a des prophéties qui sont pour une personne. Il y a quelqu'un qui vient te voir, écoute, j'ai une parole qui est pour toi. Et parole, parfois également, il y a des prophéties, c'est pas pour une personne. La prophétie est pour tout le peuple en entier. Et puis des moments, pour l'église locale en entier. Et puis parfois également, la prophétie n'est pas que pour une église. Elle est pour le corps de Christ de manière générale. Et j'aimerais vous dire ce soir le message que j'aimerais vous apporter. Je l'ai déjà apporté dans différents endroits parce que Dieu m'a demandé de le faire. C'est un peu comme cette prophétie qui ne s'adresse pas à une personne ou à une seule église, mais qui s'adresse au corps de Christ en entier. Et vraiment, j'aimerais ce soir vous apporter ce message pour aider votre église. Vraiment, c'est mon cœur, c'est mon souhait, à vraiment passer un paradigme supérieur, vraiment passer à une étape supérieure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que tous ceux qui sont d'accord applaudissent le roi des rois pour la nouvelle étape qu'il veut nous faire passer. Un jour, j'ai reçu un email d'une personne qui regarde notre église sur les réseaux sociaux et qui voit que l'église va de l'avant. Juste pour vous expliquer, je ne dis pas ça par prétention, mais juste pour vous expliquer le contexte, notre église sur ces six, sept dernières années, est passée d'une église d'environ 200, 250 personnes à aujourd'hui 1200, 1250 personnes. On a gagné un millier de personnes sur ces quelques dernières années. Et vraiment, on a vu la grâce de Dieu se manifester. Et donc, on est passé d'un culte à deux cultes, à trois cultes, et puis ensuite, on a fait un agrandissement d'église, et puis on a dû recommencer direct à deux cultes. Et puis là, depuis quelques mois, nous avons redémarré un troisième culte. Le dimanche, 9h30, 11h30, 14h30, c'est vraiment ça, ça roule comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui m'écrit un mail et qui me pose cette question en me disant, voilà, pasteur, je vois l'évolution de l'église et j'ai une question à vous poser. C'est quoi votre vision? Quelle est la vision de votre église? Est-ce que la vision, c'est de faire, comme aux États-Unis, une méga church, une méga église? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, aux États-Unis, il y a des églises de 20, 30 000 personnes, 40 000 personnes. Il y a quelques mois en arrière, j'étais à Dallas, à Gateway, et une église de 36 000. En 15 ans, ils sont passés de 200 à 36 000. Et c'est juste incroyable. Donc, il m'a posé cette question. Est-ce que c'est la vision de votre église? Alors, j'ai répondu à cette personne. Bien sûr, je ne suis pas hypocrite. Si Dieu veut nous envoyer des milliers et des milliers et des milliers de personnes, on les baptisera tous et on sera heureux de voir le royaume de Dieu grandir comme ça. Hein. Je le crois. Hein. Vous savez, des moments, il y a des gens qui disent, les nombres, ce n'est pas important, les chiffres, ce n'est pas important, la seule chose qui est importante, c'est la qualité. Moi, je crois que quand il y a de la qualité, il y a aussi de la quantité. Et je crois que les nombres sont importants pour Dieu. D'ailleurs, la preuve, il y a un livre dans la Bible qui s'appelle « Les nombres ». Donc c'est important, et parce que derrière un chiffre froid que l'on peut balancer, comme j'ai fait tout à l'heure, 1250 personnes, la réalité c'est que derrière chaque chiffre, il y a une âme qui a été arrachée de l'enfer. il y a un visage, il y a une personne qui peut-être autrefois était détruite par des dépendances, par le péché, et qui aujourd'hui est pardonnée, graciée et est devenue une nouvelle créature. Alors, je crois que les chiffres, c'est important, et d'un jour, si Dieu nous fait la grâce d'être encore de plus en plus grand et que l'Église aille de l'avant et qu'on implante des églises, moi, je suis preneur de tout ce que Dieu veut me donner. Mais j'ai répondu à cette personne, en fait, la vision de notre Église n'est pas de faire une méga church. La vision de notre Église, c'est d'être une méga Église. La vision de notre Église n'est pas d'être une méga Église. La vision de notre Église, c'est d'être une méta Église. Alors, ça veut dire quoi, une méta Église, parce que c'est mon soin, c'est mon désir, c'est ce que je vais expliquer. Le mot méta, pour que vous puissiez comprendre, ça provient du grec. Et le mot méta, c'est un préfixe qui provient du grec et ça exprime tout à la fois la réflexion, c'est-à-dire une église qui est en réflexion, dans le changement, la succession, le fait d'aller au-delà, selon le contexte, le préfixe équivaut au sens de profond. Et une église pour moi qui est une méta-église, c'est une église, c'est pour ça que le nom pour moi, Momentum, était tellement parlant, c'est une église qui est dans le mouvement. Une église qui ne regarde pas en se disant « c'est bon, maintenant nous sommes arrivés ». Mais c'est une église qui se remet en question, qui fait des changements profonds et qui sait passer étape après étape. Je suis parfois angoissé. Un jour, j'étais dans une voiture et puis quelqu'un me dit « tu vois là, cette église, là dans telle ville, je vous dirai pas où c'était », il m'a dit « cette église, il y a 15 ans, c'était l'église phare ». Aujourd'hui, voilà, et j'ai posé la question, et aujourd'hui, ils vivent sur les acquis qu'ils avaient, mais l'église est toujours nombreuse, mais il n'y a pas eu de renouveau. D'ailleurs, il me dit, la dernière fois que j'y étais, c'était fou, j'avais l'impression que, comme si on avait appuyé sur pause. Et quand il a dit ça, ça a inspiré de la crainte dans mon cœur. Et je me suis dit, Seigneur, que jamais ça nous arrive. Que jamais, quand on va parler de l'église, Momentum, que jamais, quand on va parler de votre église ici, que jamais on dise, ah, cette église, si tu l'avais connue il y a 15 ans, elle était top. Mais que chaque église, parce que je crois que c'est le corps de Dieu, que chaque église puisse être une méta-église, une église qui va de l'avant, une église qui se remet en question, une église qui n'a pas peur du changement. Parce que souvent, nous avons peur du changement. Et j'aimerais vous dire, si notre Dieu ne change pas, lui, il aime le changement. Est-ce que vous avez déjà rendu compte, est-ce que vous avez déjà remarqué dans la parole de Dieu, toutes les fois où Dieu nous parle qu'il aime faire des choses nouvelles? Des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, une ancienne alliance, une nouvelle alliance. Regardez plus les choses anciennes. Voici, je vais accomplir de nouvelles choses, des anciennes créatures, des nouvelles créatures. Chantez-moi un cantique nouveau, une nouvelle alliance, etc., etc. C'est juste incroyable le nombre de versets qui nous parlent que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et nous, parfois, nous sommes réfractaires quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau. J'aimerais vous encourager, n'ayons pas peur d'être une méta-église. Une église qui accepte ce que Dieu veut faire et une église qui va de l'avant. Sauf qu'une église, comprenez ceci, ne peut pas être une méta-église si les gens qui composent l'église ne sont pas eux-mêmes des gens qui sont dans la métanoïa, c'est-à-dire le changement. Vous savez que le mot « repentance » en grec, c'est le mot « métanoïa ». Souvent, quand on parle de repentance, dans la notion de la langue française, le mot « repentance », la plupart des gens pensent que c'est le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Donc ce jour-là, la repentance, c'est le jour, telle date, voilà, c'est ça. J'ai écrit ça sur la page de garde de ma Bible. C'est ça la repentance. J'aimerais vous dire, la repentance, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est juste le « A » de tout l'alphabet. La repentance, c'est marcher jour après jour et changer la mentalité de ce monde pour revêtir la mentalité du ciel. Un jour, j'avais été dans une église, on m'avait demandé de faire une réunion d'évangélisation et j'ai évangélisé de tout mon cœur. Et là, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit « Ah, pasteur, c'était tellement super, vous savez, de moins en moins, on entend parler de la repentance, de moins en moins, on entend parler de ces choses-là. » Et j'ai compris ce que cette personne voulait dire. Mais je lui ai dit « Vous savez, ma sœur, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est pas vrai. » En fait, chaque message que nous entendons à l'Église est un message de repentance. À chaque fois qu'on nous invite à changer notre mentalité d'ici-bas pour revêtir la mentalité du ciel, c'est un message de repentance. Si par exemple, je vous dis, si tu prends une gifle sur la joue droite, tends la joue gauche, c'est un message de repentance. Parce que la réalité, ça nous invite à changer de mentalité. Parce qu'en règle générale, quand tu prends une gifle, tu n'as pas envie de tendre la joue gauche, tu as juste envie de tendre le poing. Donc, quand tu fais ce que Dieu te demande, C'est un message de repentance, comprenez-vous? Quand on dit aux gens, arrêtez de vous amasser des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille pourrissent tout, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent rien pourrir. C'est un message de repentance. Parce que la plupart des gens que nous sommes, moi le premier, chacun d'entre nous, on a plutôt tendance à vouloir s'amasser des trésors sur cette terre. Comprenez-vous? Donc chaque message où nous proclamons la parole de Dieu, nous proclamons la mentalité du royaume de Dieu, d'ailleurs métanoïa ça veut dire mentalité, un changement de mentalité, nous proclamons que nous allons de l'avant, nous proclamons que nous échangeons la mentalité terrestre pour revêtir la mentalité du ciel. Et j'aimerais vraiment vous encourager parce qu'on ne peut pas être une méta-église si les gens qui composent l'église, parce que l'église c'est nous, je l'ai dit tout à l'heure, si les gens qui composent cette église ne sont pas capables de changer de mentalité. Pour que l'église soit une méta-église, elle doit être composée d'hommes et de femmes, de pierres vivantes qui sont eux-mêmes et qui vivent eux-mêmes la métanoïa. Et lorsque nous vivons la métanoïa, l'église devient une méta-église. Et j'aimerais ce soir vous encourager avec ce message qui s'intitule, vous l'avez compris, la méta-église. Et j'aimerais vraiment que nous puissions voir, j'aimerais juste voir trois choses succinctement avec vous pour nous permettre d'aller de l'avant et que l'église devienne une méta-église. Alors ça ne sera pas exhaustif, je ne veux pas être long et ça ne va pas être exhaustif, il faudrait que je fasse 25 messages là-dessus. Et encore, je ne pense pas que je couvrirai toute la notion de la méta-église, mais juste quelques pensées qui sont sur mon cœur et que j'aimerais vous laisser afin que nous puissions, chacun d'entre nous, aller de l'avant. Premièrement, on doit comprendre que pour être une méta-église, la base, vraiment le fondement, c'est l'humilité. L'humilité, premièrement, c'est la racine de toutes les grâces. Sans humilité, on ne peut pas aller de l'avant. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le mot même, résister aux orgueilleux, en hébreu, ça veut dire littéralement que Dieu, c'est un mot de guerre, ça veut dire littéralement que Dieu se range en ordre de bataille contre les orgueilleux. Comprenez-vous comme c'est fort? Et j'aimerais que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important d'être une méta, d'avoir cette humilité pour être une méta-église. Parce que si on est une église orgueilleuse, c'est-à-dire une église qui croyant qu'on a tout compris, on n'a pas besoin de changer, qui regardons les autres églises avec mépris, alors Dieu ne peut plus rien faire dans l'église. Mais quand on a de l'humilité, même si parfois des gens ne sont pas gentils avec nous, mais que nous restons dans cette humilité et que chaque personne qui compose l'église, on reste dans cette humilité. Seigneur, parfois, je ne comprends pas tout, mais Seigneur, je vois que ton onction est là, alors j'avance et je vais de l'avant. Nous, on a fait beaucoup de changements dans notre église, c'est juste incroyable ces dernières années. Et là, j'ai un monsieur qui s'appelle Monsieur Junou, il est juste incroyable ce monsieur, il a 85 ans aujourd'hui. Et parfois, il me dit, tu sais, pasteur, je ne comprends pas tout, hein. Je ne comprends pas tout à ce que vous faites, mais il y a une chose que je sais, Dieu est en train de bénir. Et à partir du moment où Dieu bénit, moi je suis content, ça me va. Vous comprenez? Et il y a cette notion que l'orgueil et l'humilité sont deux puissances. Comprenez ceci. Je pense que cette pensée est très profonde et elle peut vraiment vous permettre d'aller de l'avant en tant qu'église et même vous en tant que personne. L'orgueil et l'humilité ne sont pas juste un défaut ou une qualité. Ce sont littéralement deux puissances qui peuvent vous métamorphoser. C'est ces deux puissances. Vous savez, un jour, j'étais dans une église, et là, je discutais avec un pasteur, et le pasteur me disait, tu vois, telle personne, là, lui, il a un problème. Il me montrait des gens qui avaient un souci. Il me dit, ouais, lui, il a un problème avec la pornographie. Puis il me montre un autre, lui, il a un problème avec l'alcool. Puis il me montre un autre, et puis il me dit, ouais, lui, il a un problème d'orgueil, là, ce gars-là. Et puis, il me cite ça comme si l'orgueil était au niveau de la pornographie. Comme si l'orgueil était au niveau de l'alcool ou des choses comme ça. Et j'aimerais vous dire, il n'y a rien de pire que l'orgueil. Il n'y a rien de pire que l'orgueil. La pornographie, c'est rien. C'est pas rien, on se comprend, hein, mais par rapport à l'orgueil. Alors certains vous disent, ah, pasteur, tu es en train de classer des péchés. Oui, je le fais. Il n'y a rien de pire que l'orgueil. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau parce qu'il a un problème, il a une dépendance, un problème caché au fond de lui, que ce soit le jeu, que ce soit l'alcool, que ce soit pornographie, que ce soit je ne sais quoi, quel autre problème, quand il vient dans mon bureau et qu'il est là avec des larmes et qu'il dit « Pasteur, j'ai besoin d'aide et puis je veux m'en sortir, etc. » Dans mon cœur, même si c'est un vrai péché, même s'il y a un vrai problème, je suis rassuré parce que je me dis, il est tellement humble, il reconnaît tellement son besoin de la grâce de Dieu que Dieu va agir parce que Dieu fait grâce aux humbles. Mais quand je vois un orgueilleux qui se pointe, même s'il n'a pas fait toutes ces choses-là, je me dis c'est une catastrophe. Un orgueilleux ne change pas. il ne peut pas. C'est parce qu'il pense qu'il est tellement mieux que les autres qu'il ne peut même pas changer. Et Dieu, vous savez, il y a des impossibilités à Dieu. Parfois, on dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu dans la sphère d'action de Dieu. Mais il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Il est impossible à Dieu de renier sa nature. Il est impossible à Dieu de commettre le péché. La Bible nous le dit, que Dieu ne peut même pas être tenté par le péché. Il y a des impossibilités. Qu'on se comprenne bien, il est impossible à Dieu de bénir un orgueilleux. Littéralement, il est en ordre de bataille contre lui. Comprenez-vous la puissance de l'orgueil? L'orgueil, comprenez ceci, juste pour vous montrer quelle est la puissance de l'orgueil, juste pour que vous puissiez saisir le message. L'orgueil a pris un ange de lumière qui s'appelait Lucifer. Lucifer, ça veut dire l'astre brillant, le porteur de lumière. Et un jour, cet astre de lumière, ce Lucifer a tellement dans son cœur commencé à concevoir de l'orgueil qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Écoutez bien, et lorsque Dieu a vu ça, il s'est mis en ordre de bataille contre lui. Et vous savez ce qui s'est passé? L'ange de lumière, un des plus beaux anges qu'il y avait dans le ciel, est devenu Satan. Donc quand vous pensez à ça, vous commencez à comprendre que l'orgueil n'est pas un défaut ou un péché comme les autres. L'orgueil peut prendre un ange de lumière et en faire le diable. Et les démons qui l'ont suivi, les anges, excusez-moi, qui l'ont suivi par suffisance, sont devenus aujourd'hui les démons sur cette terre. Donc ne croyez pas que l'orgueil est juste un défaut comme les autres péchés. C'est la racine de tous les péchés qu'ils peuvent avoir sur cette terre. L'enfer a été créé à cause de l'orgueil. Comprenez-vous? Donc une église qui est orgueilleuse, une église qui ne veut jamais aller de l'avant, une église qui n'est jamais capable de se remettre en question, une église qui ne veut pas aller de l'avant, c'est une église qui est orgueilleuse et c'est une église qui n'est pas capable de faire son introspection et c'est une église où Dieu ne peut plus rien faire. Même s'il peut y avoir quelques soubresauts, il ne peut plus rien faire dedans. Par contre, j'aimerais vous dire, une église qui est humble, une église qui reconnaît son besoin de Dieu, une église qui sait qu'elle n'est pas encore arrivée, une église qui sait que j'ai un corps pour les perdus, j'ai un corps pour voir la gloire et la grâce de Dieu, alors c'est une église qui va vivre dans sa vie d'église et dans nos vies personnelles, c'est une église qui va vivre des choses incroyables. Comprenez ceci. Si l'orgueil a changé un ange de lumière, littéralement en diable, l'humilité, comprenez ceci, et a créé l'enfer, l'humilité nous est donnée à travers Jésus qui n'a pas regardé alors qu'il était égal de Dieu. Il est venu sur cette terre, il s'est dépouillé de sa gloire par humilité, Philippiens chapitre 2, par humilité, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est venu donner sa vie pour chacun d'entre nous. Il est mort sur le bois de la croix. Et aujourd'hui, le ciel nous a été donné par l'humilité de Jésus. Comprenez-vous? L'orgueil prend une personne et le change et en fait un démon, alors que l'humilité d'un homme, même s'il est mal tombé, même s'il a fait des choses qui sont pas géniales, à partir du moment où un homme courbe, ou une femme courbe son genou devant Dieu, demande pardon à Dieu, mais alors peut-être qu'il a fait, c'est un vil pécheur, il a fait toutes sortes de choses pas glorieuses, à partir du moment où il demande pardon à Dieu, qu'il se repent devant Dieu, qu'il demande la grâce de Dieu, je crois que dans son ciel de gloire, le Seigneur descend, il le prend, il l'amène devant le trône de la grâce et il en fait un enfant de Dieu. Comprenez-vous? L'orgueil et l'humilité sont des puissances qui nous métamorphosent. Et de la même manière, l'orgueil et l'humilité sont des puissances qui métamorphosent une église. Et une église qui est humble, c'est une église qui reconnaît son besoin de la grâce de Dieu et qu'elle continue à aller de l'avant, qui ne s'arc-boute pas sur « moi j'ai compris parce qu'un jour on a vécu ça ou on a vécu ceci », mais qui est capable de se remettre en question et de suivre ce que Dieu veut faire dans sa propre vie. Amen. Un exemple incroyable d'humilité, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a écrit les deux tiers des épîtres du Nouveau Testament. Il en connaissait, on est d'accord pour dire qu'il en connaissait un rayon sur la doctrine. Vous êtes d'accord avec ça? La doctrine de la grâce, épître aux Romains, toutes les doctrines, disciplines, retour de Jésus, etc. Lisez les épîtres de Paul, c'est juste incroyable. C'est pas un monsieur que vraiment où moi je me serais senti la capacité de pouvoir lui apprendre quelque chose. Comprenez-vous? Puis non seulement au niveau de la théorie, il en connaissait un rayon, mais même au niveau de la pratique. D'ailleurs, il dit « j'ai appris à être content hein. ». C'est un apprentissage, hein, ça se fait pas comme ça. Et il a appris à être content de l'état où il se trouvait. Et on voit qu'il a implanté des églises de partout, de partout. Pourtant, cet homme, lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, il va écrire une épître à Timothée, son fils dans la foi, comme un testament. Il va lui écrire une épître. Et dans cette épître, il va littéralement ouvrir son cœur. On dit que c'est vraiment une des épîtres les plus touchantes de l'apôtre Paul. Et on voit voit que, alors qu'il était beaucoup plus jeune, qu'il ne supportait pas ceux qui étaient un peu faibles. On voit, il voulait plus de marques. C'est hors de question. Il s'est même disputé avec son ami à cause de ce gars-là. Et là, on le voit à la fin, il change d'avis. Pourtant, c'est Paul. Il change d'avis, il dit, mais non, envoie-moi Marc, il m'est utile pour le ministère. Et regardez ce qu'il va dire même dans cet épître. Il va dire cette chose incroyable. Quand tu viendras, il s'adresse à Timothée, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. C'est un vieux monsieur, il a besoin de sa petite laine. Et les livres ainsi que les parchemins. Les parchemins, c'était quoi? C'était le papier à lettres sur lesquels il écrivait ses épîtres. Épître, ça veut dire lettre, là où il écrivait. Parce que même s'il était âgé, il voulait encore bénir le peuple de Dieu. Ça, c'est beau, hein, de voir des personnes âgées qui veulent encore servir le royaume de Dieu. D'ailleurs, je discutais avec un monsieur, plus de 80 ans, il va encore servir le royaume de Dieu. Mais ce qui était beau en plus chez Paul, c'est qu'il demande des livres. Et qu'on se comprenne bien, les livres là, ce n'est pas la Bible. Les livres là, c'est les commentaires bibliques. C'est les livres du pasteur Intel. Comprenez-vous? Jusqu'à la fin, c'est un monsieur, il m'interpelle tellement. Il arrive à la fin de sa vie, ce monsieur, tu dis, j'ai rien à lui apprendre. Et là, il est en train de dire, ah, envoie-moi, donne-moi les livres du pasteur Intel, j'aimerais bien lire ce qu'il écrit. J'aimerais, donne-moi les commentaires bibliques d'un tel, un tel, un tel, un tel, pour que je sois édifié, encouragé. J'ai besoin, je suis dans ma prison, il est à Rome, c'est dans un temps difficile, j'ai besoin d'être encouragé. Combien croient que si l'apôtre Paul, avec la stature qu'il avait, jusqu'au bout, il a été capable de se remettre en question? Est-ce que vous croyez que nous, on peut le faire? Vous comprenez? C'est pas un vieux monsieur, Paul, qui est arrivé à la fin de sa vie en disant « Maintenant, je veux juste le parchemin, il n'y a que moi qui peux expliquer aux gens. » Jusqu'au bout, il a gardé cette fraîcheur. Il a changé d'avis, waouh! Il a changé d'avis sur un gars. Ah, je ne l'aimais pas ce gars-là avant, il nous avait abandonné, je n'ai pas aimé ce qu'il a fait. Ah mais non, vas-y, envoie-moi-le, il est super ce gars-là. Waouh! Je veux encore des livres d'un tel, un tel. Je veux être affronté intellectuellement. Je veux apprendre des choses. C'est tellement incroyable et merveilleux. Donc la première des choses, la première des conditions d'une méta-église, la première des conditions, c'est une église qui marche dans l'humilité. C'est une église qui reconnaît qu'elle a besoin de grandir et d'évoluer et qu'elle a besoin de la grâce de Dieu. Alors si on sait que l'humilité précède la gloire, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est humble, si on marche dans l'humilité, alors Dieu va envoyer sa gloire. On est d'accord avec ça? L'humilité précède la gloire. Donc, s'il y a la gloire de Dieu, on peut dire que la gloire de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, mais laissez-moi vous poser une question. Laissez-moi vous poser une question. S'il y a la bénédiction de Dieu, ceux qui étaient là hier matin, ne répondez pas, s'il vous plaît. S'il y a la bénédiction de Dieu sur cette église, qu'est-ce que ça va produire dans l'église? Allez, aidez-moi. Dites des réponses, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que ça va produire? Si la gloire de Dieu est dans la maison, qu'est-ce qui va arriver dans la maison? La bénédiction, la joie, très bien. L'unité, la guérison, j'ai entendu. La multiplication, les conversions. Les délivrances, la métamorphose. Encore d'autres choses? Le caractère qui va évoluer, qui va ressembler plus à Christ. En fait, est-ce que vous avez remarqué que tout ce que vous venez, tout est vrai, hein, tout ce que vous avez dit, merci, là, c'est toutes des bonnes réponses, mais est-ce que vous avez remarqué que automatiquement vous avez dit des choses que positives? Comme si la bénédiction de Dieu engendre que des choses positives. J'aimerais vous dire, la bénédiction de Dieu engendre aussi des problèmes à régler. C'est mon deuxième point. C'est deuxièmement, la bénédiction engendre des problèmes à régler. On doit comprendre que toute bénédiction, écoutez bien, vous allez le comprendre, je vais être très pragmatique, toute bénédiction engendre des problèmes. Je vous donne des exemples. Un jour, il y a un gars qui est venu dans mon bureau, célibataire, pas loin de 40 ans, il était blasé, il en avait marre. « Pasteur, prie pour moi, pour que Dieu me donne une femme. » On a prié. Quelques temps après, il rencontre quelqu'un. Waouh, génial! Et puis, dans la foulée, il se marie pas très longtemps après. Et 6 mois après son mariage, il vient me voir dans mon bureau, il dit « Pasteur, prie pour moi, j'en ai marre, je ne la supporte plus. » Vous comprenez? Il a le problème de sa bénédiction. Non, vous ne le croyez pas? Combien croient que le mariage est une bénédiction? Il y en a, vous n'êtes pas sûr. Hein. Un jour, il y a un moniteur à l'école du dimanche qui a dit aux enfants, qu'est-ce que Jésus a dit concernant le mariage? Alors, il y a eu des, vous savez, les enfants, ils font toutes sortes de réponses aussi mignonnes les unes que les autres. Puis, il y a des enfants qui étaient là, bah, il faut lui porter son sac, il faut lui ouvrir la porte. Un autre a dit, il faut partager son chewing-gum. Et il y en a un, il a levé la main, il dit, bon, je sais ce que Jésus, il a dit. Il dit, ah bon, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, concernant le mariage? Jésus, concernant le mariage, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'on s'entende bien. Le mariage est une bénédiction, mais ça va engendrer des problèmes à régler. C'est pour ça que souvent, je ne sais pas si ces expressions existent aussi en Suisse, mais c'est pour ça qu'en France, on dit que suite à la première année, il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut arrondir les angles, comprenez-vous? Parce que c'est un problème. C'est une bénédiction qui engendre des problèmes. On est d'accord pour dire que les enfants sont une bénédiction? Ok? Mais les enfants, ils engendrent des problèmes. Ben oui. Ceux qui ont des problèmes avec leurs ados, vous avez des problèmes, certains, avec vos ados? C'est les problèmes de votre bénédiction. Vous avez voulu des enfants, vous les avez. Vous comprenez? Mais on est heureux de les avoir. Comme on est heureux d'être marié. Mais de croire que parce que je me marie ou parce que je vais avoir des enfants, tout va être clean parce que la bénédiction, c'est toujours génial, ça nous montre, la vie nous montre que non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu nous donne des choses, on est heureux, waouh, je suis béni, mais derrière, il va y avoir des problèmes à régler. Et on doit comprendre qu'une méta-église, une église qui va voir qu'il y a cette humilité, elle va voir la gloire de Dieu. Elle va vivre des bénédictions, mais les bénédictions qu'il va y avoir dans l'église vont créer des problèmes dans l'église. Et là, le désir de l'église d'être humble ou pas, de comprendre spirituellement ces choses ou pas, va faire que l'église va aller de l'avant ou va régresser. Comprenez-vous? Je vous montre un exemple. Une des églises qui a été juste incroyable, c'est la première église, l'église de Jérusalem. Regardez ce qu'il est dit. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, okay, on est d'accord pour dire, voilà, Dieu est en train de bénir. Ils sont 5000, ils étaient 12, ils sont passés à 120, 500, 3000, là ils sont 5000 maintenant. Donc, vraie bénédiction, on voit des miracles, des guérisons, des délivrances, on voit des choses complètement incroyables dans les actes des apôtres. Donc, les disciples augmentent, les hellénistes, donc c'était les veuves hellénistes, murmurèrent, donc c'était des personnes qui étaient dans l'église, murmurèrent contre les veuves hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. On doit comprendre, juste pour vous remettre le contexte de ce passage-là, il y avait à Jérusalem deux synagogues. Et il y avait de nouveau sous le soleil. Il y avait deux synagogues. Il y avait une synagogue qui était assez ouverte sur le monde. C'était la synagogue où on disait qu'ils avaient une culture helléniste. Hélène, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire grec. Donc ça veut dire que c'était des juifs, mais qui avaient une culture où ils étaient assez ouverts. C'était l'époque de la philosophie grecque, etc. Assez ouverts sur le monde qui les entourait. Et à côté, il y avait une église, une synagogue, excusez-moi, qui était plus hermétique. C'est une synagogue de juifs, eux, c'était comme des purs. C'était, on est bloqué, on ferme tout, on ferme les portes. Il est hors de question qu'on ait des influences qui viennent du monde. Et dans ces deux synagogues, au moment où il y a eu le réveil, dans les deux synagogues-là, il y a eu des conversions. Donc il y a eu des conversions de la synagogue où il y avait des hellénistes et des conversions de la synagogue où il n'y avait que des juifs purs et durs. Comprenez-vous? Et là, les deux se retrouvent dans l'église. Okay? Et là, c'est comme il y a deux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est comme si aujourd'hui on pourrait dire, il y a comme des différences de génération. Et puis là, ça crée du trouble dans l'église. Là, ça crée du trouble dans leur église à eux, à Jérusalem. Et c'est comme ça existe encore ça dans les églises. Des moments, des différences de génération. Les jeunes, ils veulent ceci, puis les personnes un peu plus âgées, non, etc. Et ça crée du trouble. Ouais, on met toujours les personnes âgées en avant. Ouais, on met toujours les jeunes en avant. Et puis des moments, ça crée toutes sortes de dissensions. Parce qu'une église qui grandit, c'est une église où il y a plein de gens qui arrivent. Où il y a des différences de couleur de peau qui arrivent, des cultures différentes qui arrivent. Est-ce que vous en avez conscience, ça? Vous savez que la plupart des gens qui prient pour le réveil, si demain ils vivraient le réveil, ils seraient déçus. Hein, eh oui, parce que ça va chambouler vos codes. Hein, ça va vraiment chambouler vos codes. Les gens qui vont arriver, ce n'est peut-être pas ceux que vous aviez pensé. Hein, vous comprenez? Et ça crée du trouble. Ça crée du trouble. Et là, lorsque Pierre, Jean, etc., l'équipe apostolique voit ça, dans leur église à Jérusalem, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Sauf qu'ils sont là, mais on a besoin de changer d'organisation. Autrefois, on était 12, on avait un type d'organisation, après on est passé à 120, c'est un autre type d'organisation, après 3000, maintenant on est 5000. On ne peut pas avoir le même organigramme, on ne peut pas avoir la même façon de travailler. C'est comme si Pierre disait, ok, au début j'allais visiter Madame Intel à l'église, chez elle, la mamie Intel, le papy Intel, etc. Mais non, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a trop de monde. Ça prend le temps sur la prière, ça prend le temps sur se tenir devant Dieu, faire des bons messages, etc. C'est juste plus possible. On ne peut plus s'occuper de ces affaires-là. Alors, Pierre va proposer quelque chose. L'apôtre Pierre va proposer quelque chose. Il va dire, voilà, élisez, il va dire aux gens, élisez parmi vous des gens dignes qui ont... Ils sont connus pour leur sagesse, pour leur foi, etc., pour leur zèle, pour la maison de Dieu. Et vous allez les élire et ils vont s'occuper des choses que nous, on ne peut plus s'occuper aujourd'hui. Comprenez-vous ? Et là, tu te dis comment l'Église va le prendre ? C'est vrai, ça ? Comment l'Église va le prendre ? Est-ce que l'Église va dire, bah non, on a toujours fait comme ça, il est hors question qu'on change. Pourquoi tu veux qu'on change ? Ça allait bien comme ça avant. Ouais, mais on n'est plus dans la même saison, là. Vous comprenez ? Et là, tu te poses la question, tu te dis comment ? Comment l'Église va le prendre ? Comment les églises de Jérusalem vont le prendre ? Est-ce qu'ils vont ne pas être contents, se rebeller contre cette décision ? Est-ce qu'ils vont accepter, pas accepter ? En d'autres termes, est-ce que c'est une méta-église qui est capable d'aller de l'avant et de passer à une nouvelle saison ? Ou est-ce que ce n'est pas une méta-église ? C'est une église qui devient raide et qui s'arrête sur les principes d'autrefois. Comprenez-vous ? Et là, comprenez ceci, lorsque Pierre propose ça, nous, aujourd'hui, on lit ça, puis on se dit, ben, c'est facile, c'est dans la Bible. Donc, c'est super sympa. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous devez juste comprendre ceci. Quand Pierre a cette idée, Jacques, Jean, tout le monde a cette idée, en fait, ce n'est pas une idée biblique. Parce que ça n'existait pas dans la Bible. Comprenez-vous ? Aujourd'hui, on l'a dans la Bible. Mais eux, quand ils le vivent, ils ne l'ont pas. Si vous comprenez la pensée ? Ils ne l'ont pas. Ils ont dû se tenir et réfléchir de comment on fait bouger les choses. Parce qu'on est devant une problématique que je ne vois pas, moi, dans l'Ancien Testament. Donc, comment on va faire maintenant ? Vous savez, quand Paul dit que toute écriture est bonne et utile, etc., etc., il parle de l'Ancien Testament, il ne parle pas du Nouveau. Le Nouveau Testament, c'est après le premier siècle. Donc là, ils se retrouvent devant une situation de comment ils vont réagir et on voit qu'ils vont mettre ça en place. Et là, tu te dis, comment l'Église, maintenant, va le prendre ? Est-ce qu'il y en a un qui va arriver en disant, oh, c'est pas biblique, cette histoire-là ? Comment ça va se passer ? Puis là, quand on s'entend bien, on n'était pas en train de toucher la doctrine non plus. Mais comment ça va se passer ? Et la Bible nous dit que cette proposition plut à toute l'assemblée. Waouh, ça c'est une méta-église. Et ça finit en disant, et l'église était en paix et elle continuait de grandir. Et le Seigneur rajoutait jour après jour les disciples qui devaient être sauvés. Comprenez-vous ? C'est ça une méta-église. Une méta-église, ce n'est pas une église qui ne vit pas de problème. Ça, ce n'est pas une vraie église, ça. Ça, c'est l'église du fantasme, ça. Vous savez, les églises qui sont que gentilles, que généreuses, que exceptionnelles, que prophétiques, que guérison, que parfaits, que sainteté. Ça n'existe pas, cette église-là. Ça, c'est l'église du fantasme. Okay ? Dans la vraie église, il y a ces choses que je viens de vous dire, mais il y a des bugs, des moments où on se plante, des moments où il y a le côté un peu qui ressort, et puis on peut être fatigué, et puis ceci, cela. Mais la méta-église, ce n'est pas une église qui est parfaite, mais c'est une église qui n'a pas peur d'aller de l'avant. C'est une église qui dit, ok, je comprends, je dois passer à une saison, je dois aller de l'avant. On doit comprendre ceci, il n'y a pas de changement sans crise. Ça n'existe pas. Montrez-moi une église qui va vivre un changement, et je ne suis pas en train de faire le prophète quand je vous dis ça, mais c'est prophétique quand même. Montrez-moi une église qui fait des changements, et je vous montrerai une église qui va vivre des problèmes. Parce qu'il n'y a pas de changement sans crise. Tout à l'heure, je parlais, vous voulez vous marier ? Mariez-vous, vous allez vivre une crise après. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que la plupart des gens pensent que si je vis une crise, ça veut dire que ce n'est pas bon. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans l'affaire. J'aimerais vous dire, tous les changements, qu'ils soient bons ou mauvais, vont produire une crise. Quand j'ai un enfant... Quand j'étais marié avec mon épouse, on se marie, c'est génial, on fait ce qu'on veut, on se couche quand on veut, on va au ciné quand on veut aller au ciné, on veut inviter des amis, on invite des amis, on a envie de faire la grasse mat, on fait la grasse mat, j'ai envie de partir en vacances là-bas, je prends un sac à dos et j'y vais. Et le jour où tu as un enfant, tu dis au revoir à tout ça. C'est une crise. D'un seul coup, c'est lui qui te dit quand tu te lèves, quand tu te couches, ce que tu manges, là où tu vas aller en vacances. C'est une crise. Mais on est d'accord pour dire que c'est une bénédiction d'avoir un enfant. On est d'accord avec ça ? Et pourtant, c'est une crise. Moi, je me souviens d'un ami à moi quand il a donné sa vie à Jésus, c'était un musulman, il était d'origine algérienne. Le jour où il a donné sa vie à Jésus, on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas plus grande bénédiction que de donner sa vie à Jésus. On est d'accord avec ça? Ben pourtant, le jour où il a donné sa vie à Jésus, il a vécu une crise terrible. Ses frères voulaient le tuer. Il y a une charia sur sa vie. J'ai dû le recueillir à la maison. Il est resté plusieurs semaines à la maison. Comprenez-vous? Pourtant, on va dire, ben là, il ne peut pas y avoir de crise. Ça peut être que positif. Il a donné sa vie à Jésus. Ça peut être que bien. Non, non, il a vécu une crise, renié par ses parents. Ses frères voulaient le tuer et tout. Vous comprenez? Donc, on doit comprendre qu'il n'y a pas de changement sans crise. Lorsque, à l'église, on faisait cette notion de changement, d'évolution, je me souviens, un jour, j'ai discuté avec une dame qui était un peu plus ancienne et qui était là avant que j'arrive. Alors, j'aimais bien poser la question, moi, à ceux qui étaient là, qui étaient plus anciens, qui étaient là avant que j'arrive, et je leur posais la question, je fais, comment tu vis les changements? Parce qu'à l'église, on a tout changé. Hein. Quelqu'un qui connaissait l'église avant et qui vient aujourd'hui dans notre église, il ne peut pas savoir qu'il est dans la même église. Si vous lui fermez les yeux, il n'a pas vu le décor extérieur, le quartier, il ne le sait pas. L'église, le bâtiment a changé totalement, la forme de faire les réunions, tout a changé. Donc, il ouvre les yeux, il ne peut pas savoir. Donc, je posais la question à cette personne, j'aimais bien sonder les gens, comment tu vis les changements? Et je me souviens d'une chrétienne qui me dit, ben voilà, elle me dit ceci, elle me dit, ben ça va mieux maintenant. Alors je dis, ah ok, si tu me dis que ça va mieux maintenant, c'est qu'à un moment donné, ça n'allait pas. Elle me dit, non, j'ai failli quitter l'église. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, en fait, quand l'église allait de l'avant et puis qu'il y avait plein d'âmes nouvelles qui arrivaient, dit, en fait, je ne reconnaissais plus mon église. Des moments, j'étais là, j'étais assis, puis je regardais les gens qui étaient autour de moi, je n'en connaissais plus un. Hein. Puis moi, avant, j'étais. Puis elle était humble de reconnaître qu'elle avait été un peu orgueilleuse, mais elle me disait, moi, avant, j'étais madame dans l'église. Là. Tout le monde me connaissait, on se connaissait mon nom, on connaissait mes enfants, puis d'un seul coup, je devenais comme une anonyme dans la foule. Vous comprenez ce que je disais tout à l'heure? On prie pour le réveil, mais quand le réveil prend place, c'est compliqué. Hein. Et là, elle est là, et ça n'allait pas. Elle me dit le pire. Elle me dit le pire, Patrice. Elle me dit le pire, pasteur, c'est un jour, je viens. On avait deux cultes à ce moment-là, le dimanche matin, et on avait un culte le samedi soir. Elle travaillait le dimanche, donc elle est venue le samedi soir. Elle me dit, et là j'arrive, donc c'était encore une autre population. Et là elle arrive, et puis ceux qui étaient à l'accueil, souvent c'est des jeunes baptisés aussi, l'équipe de jeunes, etc., qui s'occupent de tout ça. Et là il y a une personne qui lui ouvre la porte, et lorsqu'elle rentre, elle se retrouve devant une personne de l'accueil, une jeune fille de l'accueil. Et là la jeune fille de l'accueil, elle fait son job de tout son cœur. Elle voit cette femme qui rentre dans l'église et puis elle est toute contente. Bonjour madame, elle lui serre la main et là elle lui dit ceci, elle dit hey, vous êtes une nouvelle? Et là elle me dit Patrice, quand elle m'a dit ça, elle ça faisait 30 ans, elle est née dans l'église la fille là. Elle dit quand elle m'a dit ça, j'avais envie de lui hurler dessus. J'avais envie de lui dire c'est pas moi la nouvelle, c'est toi la nouvelle. Comprenez-vous? C'est pas facile de vivre le changement. Et là, je lui dis, comment t'as survécu à tout ça? Parce que pour être toujours là aujourd'hui, elle me dit, ben, un jour j'ai prié, parce que je voulais quitter l'église, j'en avais marre. Puis j'ai prié, et Dieu m'a parlé. J'ai dit, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il dit, tu vois, pendant des années, vous avez prié pour vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Et maintenant que tu le vis, t'es pas content. Vous comprenez? Parce qu'une église qui est une méta-église et qui va de l'avant, souvent, nous prions pour vivre des choses, mais on a notre schéma à nous de bénédiction. Mais quand Dieu vient, elle fait, et il le fait à sa manière, des moments, ça nous dérange. Vous comprenez? Mais on doit comprendre que souvent, nous sommes le résultat des prières que nous avons faites. Et c'est ça, être une méta-église. Seigneur mon Dieu, je comprends qu'il n'y a pas de changement sans crise. Je comprends que l'humilité amène la gloire. Je comprends que la gloire amène la bénédiction et toutes les bénédictions engendrent aussi toutes sortes de problèmes dans nos vies personnelles, dans nos vies d'église. Mais je les accepte. Heureux les doux, les flexibles, ceux qui savent s'ajuster parce qu'ils vont hériter des choses d'ici-bas sur cette terre. Vous connaissez cette béatitude, heureux les doux, ils hériteront des choses sur la terre. On peut hériter déjà des choses sur cette terre. Pas besoin, quand on ira au-delà, dans le ciel, il va y en avoir, mais déjà sur cette terre. Et vous savez, la douceur, ce n'est pas être mielleux. Hein. La douceur, le mot grec, là, c'est ceux qui ont la capacité, qui ont la douceur, c'est-à-dire la flexibilité pour savoir être capable de s'ajuster en fonction de ce que je suis en train de vivre. Donc une église qui est douce, qui est flexible et qui sait s'ajuster, lorsqu'elle va vivre des problèmes, elle va les vivre, mais elle va être capable de s'ajuster afin de recevoir ce que Dieu a prévu qu'elle reçoit ici sur cette terre, et pas que au-delà. Comprenez-vous? Et on doit avoir et comprendre ceci. J'aimerais finir avec cette dernière pensée. C'est qu'il peut y avoir un même but, mais avec une approche qui est différente. Souvent, j'ai remarqué que nos façons de faire sont tellement forte, qu'avec le temps passe, et que souvent nos principes, écoutez bien, souvent nos principes, on a l'impression que c'est comme des points de la Bible. Et on défend nos principes comme si c'était la Bible qu'on était en train de défendre. Alors que ce n'est pas la Bible, c'est nos manières de faire. Et elles sont tellement ancrées en nous qu'on a l'impression que si je ne fais pas comme ça, je suis comme en train de pécher là. Non, non, vous devez comprendre que selon la parole de Dieu, il y a plein de manières de faire. Mais il y a un seul objectif, c'est que les âmes soient sauvées, c'est que les âmes deviennent des disciples et que nous allons de l'avant. Il y a, je finirai avec la pensée de Jean-Baptiste, qui a une pensée tellement incroyable. Jean-Baptiste est là, et on sait que c'est celui qui préparait le chemin du Seigneur, et là, il prêchait. Et il prêchait, voilà, et le Seigneur l'avait mis en place, c'était un prophète qui annonçait la venue de Jésus. Et là, lorsque, à un moment donné, il annonce qui est Jésus, qui va venir, on voit qu'il fait un énoncé de mission, c'est-à-dire une déclaration. Il est en train de dire aux gens, voici comment va être celui qui va arriver. Vous savez que Jean-Baptiste avait un gros caractère. Si vous lisez la Bible, vous voyez qu'il avait un gros caractère. Vous savez, il y a plein de gens qui aiment bien Jean-Baptiste, mais ils n'aimeraient pas l'avoir comme pasteur. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Race de vipère ». C'était ça, Jean-Baptiste. Ok ? Et là, c'était comme s'il disait aux gens qui étaient devant lui, c'est « Vous trouvez que je suis dur ? Attendez celui qui arrive. Oh, qu'est-ce que vous allez ramasser ? Regardez ce qu'il dit. Il séparera. C'est l'annonce de Jean-Baptiste, déclaration, il parle de Jésus. Il séparera le grain. Le grain, c'est les bonnes personnes, ok ? De la paille, c'est les pécheurs. Il amassera son grain, c'est-à-dire les bonnes personnes, dans son grenier, c'est-à-dire dans son ciel. Et il brûlera la paille, c'est-à-dire les pécheurs, dans un feu, c'est-à-dire l'enfer, qui ne s'éteint jamais. Waouh ! Le gars est en train de dire, vous allez voir celui qui va arriver. Vous trouvez que je suis dur ? Celui qui va arriver, il va mettre les bidons droit. Les points sur les i, les barotés, là, vous allez voir, ça va être quelque chose. Et puis, quelques temps après, Jésus arrive, etc. Et puis, il se retrouve, quelques temps par la suite, il va dénoncer un adultère. Il y a une femme qui commet l'adultère avec un homme, enfin un homme, une femme, c'est les deux là. Ils commettent l'adultère, le roi, enfin bref, quelque chose d'assez délicat, ce qui fait que la femme n'est pas contente et elle dit au gars, son amant, le roi, tu le prends puis tu me le jettes en prison. Et on sait que ça va lui coûter la vie. Et alors qu'il est en prison, on sait que Jean-Baptiste recevait des personnes. On sait, je ne sais pas comment ça se passait exactement, mais on sait qu'il recevait des personnes. Regardez ce qu'il est dit. Jean ayant entendu parler dans sa prison, donc il entendait, des gens venaient de lui parler, il fit dire par ses disciples, donc il y avait même les disciples qui étaient là, et puis il envoyait même des disciples parler, « Es-tu celui, en parlant de Jésus, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Waouh ! Jean-Baptiste a douté. Vous savez, quand Jean-Baptiste a douté, moi je me souviens la première fois que j'ai entendu prêcher sur ce passage-là, je me souviens, c'était un prédicateur, il avait fait un message magnifique. Un message magnifique sur, vous savez, quand on vit des temps difficiles, des épreuves, on peut douter de Jésus parfois. Des moments, c'est tellement dur, on vit tellement des angoisses, c'est tellement compliqué la vie qu'on peut douter de Jésus. Et là, je me souviens, le message, il parlait là-dessus, puis c'était vraiment bon ce qu'il avait dit, c'était vraiment touchant. Et je crois vraiment que c'est biblique, la notion de parfois, quand on vit des épreuves, on peut douter. Sauf que quand il prêchait ça, après j'étais là, j'étais pas vraiment content. Je me dis, non, je pense pas que ça soit vraiment ça. Je comprends pas, moi, quand je vois Joseph, il a pas douté. Quand je vois Jérémie qui a été jeté au fond d'une citerne, il n'a pas douté. L'apôtre Paul n'a pas douté. Pourquoi Jean-Baptiste, qui a l'air d'avoir un caractère plus raide que les autres, pourquoi lui douterait ? Et en fait, vous savez pourquoi Jean-Baptiste a douté ? On l'a lu ensemble, on le relise. Tu peux remettre la diapo, s'il te plaît. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. En d'autres termes, quand Jean a appris comment Jésus faisait le job, comment Jésus faisait le ministère, il s'est mis à douter de Jésus. Il s'est dit, lui là, il fait des méthodes que je n'ai pas l'habitude de voir. Donc ce gars, ça ne doit pas être lui, ce n'est pas lui le bon. Comprenez-vous ? Imaginez un instant avec moi. Vous avez un peu d'imagination ? Moi, quand je lis la Bible et j'ai beaucoup d'imagination. Donc, imaginez un instant avec moi. Vous avez Jean-Baptiste qui est en prison, qui est là. Puis là, il a la visite des deux gars, de deux disciples qui viennent le voir. Et là, Jean-Baptiste est là dans sa prison. Hey, les gars, j'en ai marre, je suis là, je ne peux pas être dehors, je ne peux pas faire l'œuvre du ministère, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas amener les gens à se repentir, etc. Et puis là, il regarde les gars, il dit, mais rassurez-moi les gars, Jésus, celui que j'ai annoncé, Jésus, il fait bien le job. Et là, les gars, ils sont là, bah oui, Jésus, c'est bon, hein, il prêche, il n'y a pas de souci avec ça. Ah, Jean-Baptiste, il est là, ah, ok, ah, super et tout. Rassurez-moi, les gars, il fait bien ce que j'ai dit, hein. C'est-à-dire? Ben, il fait bien ce que j'ai dit, il est bien en train de juger le monde. Il est bien en train de séparer la paille du grain, les bonnes personnes des mauvaises personnes. Il est bien en train d'apporter le jugement, hein. Comment t'expliquer ça? La dernière fois, on l'a entendu prêcher. Ouais, il a fait cette déclaration. Je ne sais pas si ça va te plaire, là. Mais il a fait cette déclaration. Il a dit qu'il n'était pas venu juger le monde. Quoi? Non, il a dit qu'il n'était pas venu juger le monde. Il était venu sauver le monde. Il est venu sauver, c'est pas juger le monde. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et rassurez-moi, les gars, là. Rassurez-moi, les gars. Il fait comme moi. Il fait le ministère comme moi. Il est séparé, quand même. Il ne vit pas avec les gens. Il ne se mélange pas, il est comme moi, il vit dans le désert, dans la sainteté, il ne se mélange pas avec les pécheurs. Ben, comment te dire ça? On lui a donné un surnom. Ah bon? Ouais, on l'appelle l'ami des pécheurs. L'ami des quoi? On l'appelle l'ami des pécheurs. L'ami des pécheurs? Non, mais t'es en train de me dire quoi, là? T'es en train de me dire qu'il passe du temps avec eux? Non, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Dis-moi qu'il est dans le désert, qu'il est comme moi, qu'il mange des sauterelles. Pas tout à fait. En fait, tous les soirs, il mange avec les prostituées du coin. Il mange avec les gens de mauvaise vie. Et il passe du temps avec eux. Quoi? Il mange avec eux? Ouais, il mange avec eux. Il jeûne pas? Ben, il a dit que tant que l'époux est là, il n'y a pas besoin. T'es sûr de ton truc, là? Mais c'est quoi, ça? C'est quoi, cette histoire? C'était pas ce que j'avais annoncé. C'est pas comme ça qu'on fait le job. C'est pas comme ça qu'on fait le ministère depuis des générations. C'est quoi, ces nouvelles méthodes, ces nouvelles techniques? Les gars, rassurez-moi. Non, mais vraiment, rassurez-moi. Il n'y a rien de pire, quand même. Tu lui dis ou je lui dis? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Non, toi, vas-y, dis-lui, là, parce que là, je sens que ça va mal se passer. Jean, ouais, tu sais pourquoi t'es là? Ben ouais, je sais pourquoi je suis là. J'ai dénoncé un adultère qui a pris place et ça m'a amené à être en prison aujourd'hui. Bon, ben justement, il y a quelques jours en arrière, on a amené une femme qui avait commis un adultère. Petite parenthèse, vous avez vu qu'on a amené que la femme, on n'a pas amené le gars. Hein. On a amené la femme. Et là, on a dit, c'est les prêtres religieux, puis on dit, la loi de Moïse nous dit de juger, de lapider une telle femme. Qu'est-ce que tu dis? Quel est ton jugement à toi, Jésus? Et là, Jean-Baptiste, c'est bien alors, c'est bon, il a pu juger, comme moi je l'ai fait, hein, il a pu juger. Ben, en fait, il s'est mis accroupi, puis il s'est mis à faire un truc bizarre, il a écrit par terre, là, il était là, en train d'écrire et tout. Et après, il a fait quoi? Ben, il s'est levé, puis il a commencé à regarder tous ceux qui étaient là, puis il a dit que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Ah bon? Et il s'est passé quoi? Ben là, du plus vieux, peut-être ils avaient un peu plus de péché à se faire pardonner, jusqu'au plus jeune, ils sont tous partis. Ils sont tous partis? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que lui, il n'a pas commis de péché, lui, il peut la juger. Ben, Jésus l'a regardé, il lui a dit, moi non plus, je ne te juge pas. Va et ne pêche plus. Là, Jean-Baptiste les a regardés en disant, non, stop, c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on fait le job. C'est pas comme ça qu'on fait le ministère. Comprenez-vous? Ayant entendu parler des œuvres de Jésus, du Christ, ayant entendu parler de comment il faisait le job, comment il faisait le ministère, les méthodes qu'il employait, il fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Comprenez-vous? Il était déboussolé, Jean-Baptiste, par les méthodes de Jésus. On doit comprendre que les méthodes ne restent que des méthodes. Ce qui est important, c'est que la parole de Dieu soit accomplie. Les gars ont été voir Jésus. Écoutez bien, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Les gars vont voir Jésus. Ils arrivent, et lorsque, comprenez ceci, c'est insultant l'histoire. Jésus est en train de prêcher, et alors qu'il est en train de parler avec les gens, qu'il est en train de les enseigner, là, tu as les disciples de Jean-Baptiste et qui disent « Hop, hop, hop !» Il faut comprendre que Jean-Baptiste, c'était le ministère international. Là. C'était le gars, quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Là. Donc le gars, il pouvait vous créditer ou vous discréditer. Hein. Et là, les gars arrivent, les disciples de Jean-Baptiste arrivent en disant « Hop, 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 au fait, Jean-Baptiste nous envoie vers toi et il nous dit « Est-ce que tu es bien celui qu'il avait dit ?» Est-ce que tu es bien celui qui l'avait prophétisé? Est-ce que tu es, c'est bien toi là qui dois venir parce qu'il a entendu parler de comment tu faisais le ministère et il a des gros doutes sur qui tu es. Comprenez-vous? Waouh, c'est insultant quand même. À votre avis, comment Jésus a réagi? Est-ce qu'il a dit, ouais, mais de toute façon, Jean-Baptiste, c'est la vieille école, il n'a rien compris. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Regardez ce que Jésus a fait, c'est tellement beau. Jésus va prendre ces personnes et il va citer le prophète Ésaïe. Il va dire, regardez, les aveugles voient, les sourds entendent, etc., etc. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire, ce que je fais est différent de ce que Jean-Baptiste faisait, mais le résultat est le même, je suis en train d'accomplir la parole de Dieu. Vous comprenez? Et les gars sont repartis, on n'a pas eu la réponse de comment Jean-Baptiste a pris la chose. Mais on sait comment Jésus était. Et la chose que j'aime chez Jésus, Jésus c'est l'humilité incarnée. Jésus, quand ils sont partis, il aurait pu casser Jean-Baptiste. En disant, ouais, c'est la vieille école, il a rien compris, il ne voit pas ce qu'on est en train de faire, etc., etc. Non, non. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il l'a honoré. Il a dit, né de femme, il n'y a jamais eu plus grand prophète que Jean-Baptiste. Comprenez-vous? L'humilité de Jésus. Il n'a pas méprisé la génération qui était avant lui, mais il l'a honoré. Je crois que Dieu est heureux quand on s'honore, quand les personnes de la génération d'avant honorent la jeune génération et quand la jeune génération honore la génération qui était avant. Comprenez-vous? Et Jésus l'a honoré. Il l'a honoré de tout son cœur. Vraiment, en faisant, il a fait une éloge sur lui. Et j'aimerais vous dire à toutes les personnes qui sont là, c'est quoi une méta-église? C'est une église qui marche dans l'humilité. C'est une église qui comprend qu'il n'y a pas de changement sans crise. Mais c'est une église qui vit dans la culture de l'honneur. Qui a l'humilité de s'encourager, pas de dire c'était mieux avant. De toute façon, ce n'est pas vrai, ce n'était pas mieux avant. Des moments, il y en a qui sont en train de nous faire croire qu'il y a 40 ans, 50 ans, c'était mieux. Je ne sais pas en Suisse, mais en France, il y en a qui me disent ça. C'était mieux avant, quoi. Avant, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gens qui collaboraient avec les Allemands, il y avait des despotes, il y avait l'insalubrité, il y avait la malnutrition. En quoi c'était mieux? Vous comprenez? Les femmes n'avaient pas le droit de voter, elles devaient se taire, être derrière le fourneau, etc., etc. Comprenez-vous? Mais il y a toujours cette histoire de fantasme. J'aimerais vous dire, chaque génération a ses plus et ses moins. Mais on est là et on va de l'avant. Parce que la vie, si tu peux mettre la dernière diapo, et je vais demander aux musiciens, s'il te plaît, au piano, de pouvoir revenir et juste de jouer des nappes. La vie est dans le mouvement. Écoutez bien, la vie est dans le mouvement. S'immobiliser, c'est la mort. Il y a une enquête de l'OMS qui est parue il y a 2-3 ans en arrière, qui est très intéressante, Organisation mondiale pour la santé. Et l'OMS a fait cette enquête. Ils ont pris des gens qui arrivaient à la retraite. Okay. Ils ont fait cette enquête de voir comment les personnes qui arrivaient à la retraite vieillissaient. Quels étaient ceux qui s'ankylosaient le plus et ceux qui restaient le plus en bonne santé. Okay. Qu'on s'entende bien, les deux vont finir, ils finissent par partir, mais comment la vieillesse, comment ça se passe? Et ils sont aperçus, écoutez bien, ils sont aperçus que ceux qui arrêtaient, c'est-à-dire que le jour où ils arrivaient à la retraite, vous savez que tant que vous êtes dans la vie active, vous êtes obligé de toujours vous mettre à jour. Et comme des mises à jour professionnelles, etc. Vous êtes obligé d'avancer. Mais quand vous arrivez à la retraite, vous pouvez prendre la décision de vous poser sur votre canapé. Et puis après, c'est terminé. Je regarde la télé du matin au soir. Et puis voilà, il n'y a plus rien qui se passe. Et, ou alors, vous pouvez continuer de rester dans le mouvement de la vie. Et ils sont aperçus que ceux qui étaient et qui servaient dans des associations, qui étaient bénévoles, etc., vieillissaient bien mieux que ceux qui ne faisaient rien. Ceux qui ne faisaient rien n'ont plus de but dans la vie. Et ils se laissent mourir, ils s'ankylosent. Et leur vie, leur fin de vie n'est pas géniale. Mais ceux qui restent dans le flot de la vie, même s'ils finissent par partir de la même manière, mais ils restent plus longtemps actifs et en bonne santé. Je crois que jusqu'au bout, nous devons rester dans le mouvement de la vie. Parce que s'immobiliser, c'est la mort. Un jour, j'ai vu une grand-mère, 85 ans, j'espère que ça va vous parler. 85 ans, elle commençait à prendre des cours de piano. Quand tu sais que ça prend des années avant de bien savoir jouer du piano, tu vois, tu dis, la mamie, elle a de la vision quand même. Tu vois, 85 ans, elle se met au piano. Moi, je l'applaudis, la mamie, là. Vous comprenez? Il y a des gens, ils ont 25 ans, ils sont plus capables de changer quoi que ce soit dans leur vie. C'est déjà des jeunes vieux. Des moins de changements, ça leur fait peur. Et là, ils ont 85 ans, ils ont encore des défis, comme les Caleb. Qui arrivent sur la montagne, qui arrive dans le pays promis. Le gars, il a 80 ans. Ouais, Josué, donne-moi la montagne là-bas. Ouais, vas-y, va la prendre. Et le gars, 80 ans, il monte en haut de la montagne. Et il arrive, il a fait un dab, je crois. Comprenez-vous ? Le mouvement, il faut rester dans le mouvement de la vie. S'immobiliser, c'est la mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors que cette église, que nos églises restent dans le mouvement de la vie. Que nos églises restent humbles, capables de se remettre en question. Ce n'est pas confortable le changement, mais Dieu aime ça. Et ça nous permet de nous remettre en question. Que nous ayons cette humilité, que nous n'ayons pas peur. Et même quand on vit une crise, plutôt que de dire « ouais, c'est quoi ça ?» puis « on l'avait vu venir », etc., etc. J'aimerais vous dire, moi aussi, je les vois venir. À chaque fois qu'il y a un changement, je sais qu'il y a une crise. Mais on les accepte, on règle le problème et on va de l'avant. Et l'Église est en paix et elle continue de croître par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut se lever à notre place ? Juste un instant, j'aimerais juste qu'on puisse se lever à notre place. Juste là où nous, est-ce qu'on peut étendre nos mains devant le Roi des Rois, juste là où nous sommes, et juste commencer à prier pour notre Église. Vous aimez votre Église ? Priez pour votre Église. Commencez à dire, Seigneur, que nous puissions devenir une méta-Église, que nous puissions être des hommes et des femmes qui ne vont pas avoir peur de se remettre en question, mais qui vont prendre la décision d'aller de l'avant et de vivre tout ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Je prie, mon Dieu et mon Roi, pour des hommes et des femmes. Je prie pour cette conférence. Ensemble, Seigneur, ensemble, nous voulons aller de l'avant. Ensemble, nous voulons vivre de nouveaux horizons, de nouveaux défis, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons pas peur des crises. Nous croyons qu'elles font partie de la vie. Il y a toutes sortes de crises dans la vie et elles sont bonnes parce qu'elles nous disent que nous sommes en train de vivre une étape nouvelle. Seigneur mon Dieu, je prie pour une église qui va vivre toute la dimension que tu prévois pour elle. Je prie pour une église qui reste en vie. Je prie pour une église qui va être saisie par l'Esprit de Dieu et qui va être capable de se remettre en question et qui va aller et qui ne va pas avoir peur d'avancer, Seigneur mon Dieu. Que cette église, Seigneur mon Dieu, quand on va parler d'elle dans 10 ans, dans 15 ans, que personne ne dise « Ah, cette église, si tu l'avais connue, elle était super. » Aujourd'hui, c'est juste, elle est juste là, elle nous rappelle qu'autrefois, il y a eu quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Je prie, Seigneur mon Dieu, je refuse, Seigneur mon Dieu, qu'aucune arme forgée contre nous ne puisse prospérer. Mais je déclare que cette église devienne une méta-église, que cette église aille de l'avant et vive et saisisse toutes les bénédictions que tu as prévues pour elle. Nous les voulons, nous les anticipons, nous les prenons et nous déclarons que la grâce de Dieu va nous conduire à aller de l'avant. Dans le puissant nom de Jésus, nous le déclarons et que tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et acclament et applaudissent le Roi des Rois. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Oh, Sorogoro, Sorogereshai, Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu. Comment juste, peut-être tourne-toi vers les deux, trois personnes qui sont autour de toi. C'est nous l'église, c'est les pierres vivantes. Et commence à prier. Commence à prier. Tournez-vous vers les deux, trois personnes. S'il y en a qui veulent rester seuls, qui restent seuls. Que vous puissiez vous tourner vers des gens qui sont autour de vous. Et juste, c'est nous l'église. Nous les pierres vivantes. Que nous puissions nous assembler les uns avec les autres. Et commencer à dire, on va pas avoir peur. On va aller de l'avant. On va vivre tout ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions vivre. Alléluia, Seigneur Jésus. Que parfois des jeunes soient avec des personnes âgées. Que des gens de tout bord, tout horizon se retrouvent aussi ensemble, s'ils le désirent bien sûr. Et juste commencer à réclamer la grâce de Dieu. Et de dire à mon frère et à ma sœur, je n'aurai pas peur de toi. Je n'aurai pas peur de qui tu es. Que tu sois helléniste ou juive, je n'aurai pas peur de toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, sur le gros, sur le guérisseur.